Je rappelle que l'entretien qui va suivre est la dernière interview accordée par Claude Liazou. Claude Liazou est en effet décédé quelques jours après l'enregistrement de ce numéro d'idée.
Idée. Une émission proposée par Benoît Ruel. Seconde partie.
Et nous sommes toujours en compagnie de Claude Liazou, professeur émérite à l'université Paris 7 Denis Diderot, qui vient de publier chez Larousse un ouvrage absolument remarquable, le Dictionnaire de la colonisation française, avec 70 auteurs, dont des historiens éminents, tels Claude Manseron ou Benjamin Stora, qui était il y a peu notre invité, ou bien encore Françoise Vergès, mais aussi des sociologues et des linguistes. Au fil de ces 700 entrées, ce dictionnaire explore tous les aspects de notre passé colonial, en évitant deux écueils au moins. D'abord, en prenant soin de ne pas réduire la question de la colonisation et de sa mémoire à un débat franco-français. Ainsi, Claude Liazou a fait appel à des chercheurs nés après le désenchantement qui a suivi les fêtes de l'indépendance, ainsi qu'à des historiens des départements et territoires d'outre-mer, sans oublier des chercheurs des anciennes colonies, Maghreb, Madagascar, Vietnam, Afrique. Car, explique Claude Liazou, les problèmes qui se posent en Afrique se posent de l'autre côté. Les historiens n'y sont pas plus à l'aise. Autre écueil évité, et un écueil de taille, le politiquement correct. Il faut éviter, explique en effet notre invité, la tentation de l'anachronisme qui consiste à juger hier avec les critères d'aujourd'hui. Il faut également se méfier des cycles de l'histoire qui veulent que celle-ci soit d'abord racontée par le colonisateur, puis qu'elle adopte le point de vue des vainqueurs des guerres d'indépendance. Depuis une petite dizaine d'années, le balancier est revenu vers la France, qui redécouvre un passé enfoui. Ce dictionnaire édité, je le rappelle, chez Larousse, démontre avec limpidité que le pays colonisateur, tout autant que les colonisés, est transformé par l'expérience coloniale. Claude Liazou, il faut donner envie à nos auditeurs de consulter ce dictionnaire et pour ce faire, je vous propose de passer en revue quelques-unes de ces entrées. À vous de justifier leur pertinence, mais bien entendu, ce n'est pas parce que vous êtes le chef d'orchestre de ce dictionnaire que vous devez avoir réponse à tout. Si vous voulez passer, vous le faites. Afrique noire, Claude Liazou, la plupart des pays sous domination française ont préféré en 1960 prendre leur indépendance sans adhérer à la communauté rénovée proposée par le gouvernement français. La présence française s'est pérennisée dans le cadre de la politique d'aide et de coopération avec le maintien de la zone franc, la primauté du commerce français et la francophonie. À partir de là, l'Afrique a-t-elle été jamais décolonisée?
On peut en douter pour pas beaucoup d'aspects. On le voit bien sur beaucoup d'endroits. On parle de précaré, bien sûr. On parle de domaines réservés. De la politique française, les choses sont en train de changer, d'abord parce qu'il y a d'autres grandes puissances, dont les États-Unis et la Chine, qui s'intéressent maintenant à l'Afrique, mais je pense que l'Afrique noire a été décolonisée de manière relativement apaisée, mais dans maintenant l'essentiel des leviers d'indépendance, oui.
Agriculture, à la différence des sociétés européennes où le capitalisme s'est implanté, l'agriculture en Afrique n'a jamais été considérée comme une activité économique dissociée des autres aspects de la vie sociale. C'est ce qu'on lit dans ce dictionnaire et c'est tout à fait passionnant. Elle ne s'inscrivait pas dans une logique de production des biens, mais de reproduction familiale. La colonisation a transformé la donne et en premier le paysage. C'est une bonne ou une mauvaise chose?
C'est une chose bonne. On peut voir les mauvais côtés, bien sûr, la déforestation, l'usure des sols, les crises. Bonne chose, c'était inévitable. Inévitable, je crois.
Parce que c'était aussi une façon pour l'Afrique, je dirais, d'entrer à son corps défendant dans le marché.
À reculons, en ajoutant le travail forcé, qui a été aboli seulement à la libération. Donc on prétend avoir aboli l'esclavage, mais on l'a remplacé par le travail forcé. Donc, oui, c'était la seule façon pour l'Afrique d'entrer dans le système du marché, comme on dit, et ça s'est fait par la violence, comme en Europe, hein, ça s'est fait en Occident aussi de la même manière. Il n'y a qu'à penser aux mineurs, la transformation des paysans mineurs en France ou en Grande-Bretagne, ça s'est fait de cette façon-là, ça s'est fait, oui, par la souffrance, par la douleur, par la violence.
Cheikh Anta Diop, cet intellectuel mort en 1986, se situe à l'avant-garde dans la lutte pour l'affirmation de la production d'une histoire indigène, débarrassée des scories des représentations occidentales. Ses prises d'opposition sont à la frontière du scientisme et du militantisme. Elles ont été largement remises en cause. Pourtant, il est bel et bien un intellectuel adulé par la jeunesse africaine en quête d'identité. Mais je pose la question à l'historien que vous êtes, Claude Lauzu, peut-on construire une identité sur des contre-vérités historiques?
On peut, tôt ou tard, ça aboutit à un échec. Je crois que Cheikh Anta Diop a été un très grand monsieur. Je crois aussi qu'il a voulu réagir à la vision dominante qui était celle de l'histoire blanche, coloniale, en opposant un mythe de la grandeur de l'Afrique. Tôt ou tard, je crois qu'on ne peut pas bâtir l'avenir sur un mensonge, le mot serait trop gros, mais sur une erreur historique. Je ne crois pas que ce soit possible.
Colomb, je cite ce dictionnaire, le colonisé lui aussi contribue à produire le colon par les représentations qu'il en a. Albert Memmi a finement montré que le colonisé et le colon se construisaient dans un face-à-face. Mais cette facette des représentations réciproques est beaucoup moins étudiée que l'autre. Pourquoi ?
Plus difficile, c'est plus nouveau, mais des essayistes, comme Memmi par exemple, l'avaient fait de manière remarquable dans le portrait du colon et du colonisé. Il y aurait un travail à faire qui est difficile parce que il faut lutter à la fois pour les anticolonialistes comme nous, contre notre anticolonialisme qui consiste à critiquer tout ce qui est occidental. Il faut lutter contre ceux qui croient que la colonisation était positive. Il faut aussi lutter contre les nationalistes qui ne mettent pas en avant le fait qu'ils sont bel et bien des produits d'un système. Il n'y a pas d'exemple de pouvoir décolonisé, des pouvoirs indépendants dont les leaders n'aient pas été formés, que ce soit par l'école, par le syndicat, par les partis politiques français ou l'armée.
École, tout à l'heure, vous évoquiez la figure de Léopold Sédar Senghor, un pur produit de l'école républicaine française. Bien malgré elle, le plus souvent, la colonisation a contribué à faire émerger, précisément, des individus libérés. Et on pourrait parler notamment du rôle des femmes ici, de la tradition, de sa communauté, de sa famille, posant ainsi d'immenses défis culturels à la société dominée. C'est tout à fait étonnant, ce retournement.
Bien malgré elle, il faut le dire. Il faut dire qu'il y a un ministre qui s'appelait Albert Sarraut déconseillait vivement l'enseignement supérieur aux indigènes. Ça leur tournerait la tête comme le trop bon vin. Mais ça a été un raz-de-marée. Les intellectuels pour qui j'ai le plus d'admiration sont des intellectuels confucéens qui ont su rompre avec le confucianisme, qui est quand même un système très cohérent, très lourd, et qui ont été iconoclastes. Ce que n'ont pas été les intellectuels musulmans, ce que n'ont pas été les intellectuels africains. Alors, au bout du compte, vu aujourd'hui, bien sûr, ne paraît pas un chef-d'œuvre, c'est certain, mais je pense que des phénomènes comme cette guerre d'Indochine n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu une génération d'intellectuels qui ont été formés dans la capacité de faire la double critique de la colonisation et des insuffisances de leur société, tout en reprenant ce qui pouvait y avoir de valable dans leur culture, dans leur tradition.
Alors, je continue à feuilleter ce dictionnaire, Claude Lauzu. Je m'arrête un instant sur le mot génocide. Des historiens sont d'avis que des actions commises pendant la colonisation, alors il y en a beaucoup, évidemment, par exemple la dépopulation de l'Algérie, de la Côte d'Ivoire, de la Nouvelle-Calédonie, les hécatombes provoquées par les famines, les épidémies, que toutes ces actions ne relèvent pas de la stricte catégorie du génocide. D'autres, au contraire, estime que beaucoup d'aspects de l'annihilation du peuple juif par les nazis sont présents dans des crimes coloniaux. Votre position ?
C'est pas contradictoire. Je pense qu'il y a un courant du colonialisme qui est pour l'annihilation, l'annihilement de la population colonisée. C'est vrai, on a l'exemple des Indiens, donc pourquoi ne pas faire comme ça en Algérie ? Un autre courant a besoin de main-d'œuvre, tout bêtement, et on sait très bien que les profits du capitalisme ne peuvent pas se faire sur une table rase humaine. Et donc, horrible, horrible, vraiment, formule, il faut faire du nègre. Horrible, ça veut dire, il faut fabriquer du nègre en bonne santé, le vacciner, pour qu'ils puissent avoir des enfants et qu'ils puissent travailler. Donc il y a ces deux tendances dans la colonisation. On l'a vu au début, on l'a vu à la fin. Les guerres de décolonisation en Afrique du Nord et en Indochine, en Algérie et en Indochine, ont été particulièrement épouvantables. Je crois qu'il faut le rappeler. Le début et la fin ont été épouvantables.
Allez, encore quelques entrées. Panafricanisme, mouvement qui vise à unifier l'Afrique, glorifie son passé et inculque la fierté de ses valeurs. Aujourd'hui, en France, le CRAN, qui vient de se créer, reprend le pari difficile de l'unité noire. Est-ce que ça a quelque chose à voir ?
C'est difficile, ce pari. Pourquoi ? Parce que le statut des, ce qu'on appelle les Noirs, mais c'est une définition, je ne sais pas ce que c'est un blanc, c'est une définition qui vient du blanc. Et ce que je veux dire par là, c'est que entre Antillais, qui sont citoyens français, étrangers, il y a des différences considérables. Et je voudrais dire que, je ne sais pas combien, à partir de combien de gouttes de sang, on peut se considérer comme noir ou arien, mais ce que je sais, c'est que les métissages existent, et que ces phénomènes de métissage, nous ne pouvons plus aujourd'hui les traiter comme nous-mêmes, comme d'autres, nous l'avons fait à l'époque des décolonisations par le mépris. Parce que nous pensions que on devait être algérien à 100%, ou vietnamien à 100%, et donc que des grands esprits, Boulous Firaoun, assassiné par l'OAS, Assia Djebbar, aujourd'hui accueilli par l'Académie française, nous n'avions pas trouvé la place de ces gens-là.
Allez,
c'est grave.
Un dictionnaire, ça commence à A, ça finit à Z, Zidane. Ah. Le sport ne peut pas, bien sûr, exorciser tous les démons du passé colonial et la réussite de quelques vedettes, résoudre la question sociale, les problèmes des quartiers dits sensibles. Alors comment on peut faire, Claude Lozu ? La question est vertigineuse, bien sûr, mais oui. Tout de même.
J'aurais préféré me poser la question sur Cerdan, question d'enfance, mes souvenirs d'enfance. On m'a reproché de ne pas citer Thuram, parce que maintenant, en effet, il prend un peu la place de Zidane. Mais Zidane, c'est le plus grand.
Et Cerdan ?
Cerdan, pour moi, c'est... J'avais 9 ans, quand il était champion du monde, et quand il a conquis Piaf, pour un pied noir, c'est pas rien.
Alors, Claude Lyosu...
J'ai pas répondu à votre question. C'est une façon d'esquiver aussi.
Pas d'entrée à nom comme nom de famille. Et pourtant, vous savez aussi bien que moi, le père Alain Romaine, prêtre mauricien, le rappelait le 1er février 2006, date anniversaire de l'abolition de l'esclavage à Maurice, qu'il est des noms de famille qui renvoient à la honte et empêchent l'estime de soi. Un zizi, un lapointe, un surnois intègre dès l'enfance un sentiment d'infériorité parce qu'il porte une identité dévalorisée, méprisée. Certes, on ne peut pas changer le patronyme, il ne le faut pas d'ailleurs, mais est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser la place du patronyme dans la longue suite historique qui va de l'esclavage aux enjeux sociaux d'aujourd'hui ?
Vous avez raison, et il faudrait aussi faire la place au changement d'identitaire, au carnet d'identité, c'est-à-dire au fait qu'on va transformer en individu des gens qui se définissent par l'appartenance à une communauté. Malheureusement, nous avons un dictionnaire qui était trop limité et nous avons dû supprimer sans notice. Et la notice non était dans un des sens supprimés.
Y a-t-il une question noire en France ou des questions noires ? Je m'explique, Claude Lozu. Il y a eu plusieurs questions noires liées au colonial. L'histoire globale des Antillais, Guyanais, Réunionnais est différente pour chacune de ces vieilles entités coloniales, tout comme elle l'est pour les pays d'Afrique colonisée. À partir de là, y a-t-il une question qui concernerait spécifiquement des individus français, pour la très grande majorité, qui ont la peau noire, ou ce qu'on appelle la question noire est-elle le rassemblement d'une série de questions qui se posent à des individus d'origine géographique, ethnique, sociale différente, comme si l'identité noire, au-delà de la couleur, bien au-delà de la couleur, était devenue un paradigme indifférencié?
Je pense que c'est la deuxième formule qui est la bonne, mais à côté de ça, il faut rappeler, parce que vous avez invité Edouard Glissant il n'y a pas longtemps, que les métissages culturels, que les créolisations sont des phénomènes nouveaux et qu'ils viennent tout droit de l'esclavage. Ils sont des réponses à l'esclavage et que cela me paraît très important.
Alors justement, est-ce qu'il n'est pas temps, et en vous posant cette question, je n'oublie pas le premier congrès des écrivains noirs en 1956, de faire œuvre d'histoire en envisageant la question noire, non plus comme si l'identité noire était devenue un paradigme indifférencié, mais dans la multiplicité de ces généalogies historiques. Je vous pose la question car on a le sentiment que la question noire n'est plus ou est devenue bien autre chose, n'est plus une construction coloniale inscrite dans un temps circonscrit, comme si la question noire avait désormais vocation à imprégner tout le présent plutôt que d'enseigner l'histoire.
Oui, d'autant plus que ce qu'on appelle la question noire, ça renvoie à une recherche d'identité dans le passé le plus ancien. Il y a un autre phénomène qui joue, c'est la mondialisation des sociétés. On ne peut plus penser une identité aujourd'hui enfermée dans son réduit parce que toute identité se définit dans un ensemble mondialisé. Ça change la question noire. Il y a les Afro-Américains, il y a ceux qui vivent en Angleterre, il y a des phénomènes nouveaux, très importants, culturels. On essaie de les couvrir le plus possible. Des phénomènes comme la musique, la danse sont souvent traités un peu par le mépris, sont des phénomènes très importants dans la définition d'identité.
Je vous cite, « Ce que la colonisation a légué, souvent malgré elle, au sud comme au nord, est un défi qui peut être une richesse. » Mais on pourrait dire autant de la mondialisation dont vous venez de parler. C'est un défi et une richesse à la fois. La colonisation n'est-elle pas d'ailleurs une première mondialisation ?
Absolument, ça a été une étape fondamentale. Et nous devons aujourd'hui être capables d'aller vers cette société mondiale qui est en cours de construction, ou bien nous irons vers des guerres civiles à l'échelle mondiale qui vont se répéter. Et le but du livre, c'était d'essayer d'apporter, comme historien, des réponses à ces problèmes.
Alors justement, comme historien, comment jugez-vous ma question ? Comment y répondez-vous ? Confronté à cette histoire de la colonisation, dites-vous que l'histoire nous pèse ou que l'histoire nous manque ?
Nous manque. Elle est insuffisamment faite. Il y a d'énormes lacunes. Il y a un gigantesque travail à faire parce que la colonisation a été une place seconde. Vous avez cité Pierre Nora tout à l'heure. A été un élément second de l'histoire de la société française depuis un demi-siècle maintenant.
Claude Liozu, merci, et merci par la même occasion aux 70 chercheurs qui vous ont permis de publier chez Larousse ce dictionnaire de la colonisation française, un véritable livre d'histoire où, c'est assez rare pour le signaler, le récit présente le positif et le négatif. Je vous signale également l'essai que vient de publier chez Bayard Myriam Cotias, historienne, professeure à l'Université des Antilles Guyane et à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales, une chercheuse qui fait partie de votre équipe, Claude Liozu. Son titre, La question noire, histoire d'une construction coloniale. Alors vous n'avez pas eu le temps de tout noter, bien vous nous écrivez. Je vous rappelle l'adresse de l'émission, id@rfi.fr. Ce numéro d'idée a été mis en onde par Roland Kemener et réalisé par Marie-Noëlle Gindroux. Bonne lecture, très bonne semaine à tous.